Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a prononcé ce lundi 13 décembre son discours annuel sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès conformément à l'article 77 de la Constitution. Dans son discours, le chef de l'État est revenu sur la mutualisation de forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Félix Tshisekedi a promis de veiller à ce que la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais soit limitée dans le temps. Sur le plan politique, le président de la République a réaffirmé sa détermination à organiser les élections dans le délai constitutionnel en 2023. Pour ce faire, il appelle les Congolais à soutenir la CENI et demande au regroupement politique de parachever le processus de désignation des membres qui doivent composer la centrale électorale. L'économie et les efforts dans la lutte contre la corruption ont été aussi évoqués par le président de la République. Et sur le plan social, Félix Tshisekedi a reconnu que beaucoup de Congolais peinent toujours à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement de la République, dirigé par le premier ministre Sama Lukonde, à accélérer les actions destinées à améliorer le social des Congolais. Quelle lecture faites-vous du discours du chef de l'État Félix Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 13 décembre 2021? Participe au débat Jean-Claude Chilumbaï, député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Jean-Claude Chilumbaï, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
André Tamboué Katamboué, député national et cadre du PPRT, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. André Tamboué, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la Radio Kapi.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir, madame Kélikouté. Bonsoir, Radio Kapi. Bonsoir aux auditeurs de la Radio de la Paix.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Kapi à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Gilbert Moutambila. C'est du déjà entendu. Un discours essentiellement politique. Est-ce que le président Tshisekedi se rappelle de toutes les promesses faites déjà au peuple? Peut-il nous dire aujourd'hui pourquoi il peine à les réaliser? Il est déjà en fin mandat, mais il continue à appeler son gouvernement à améliorer le social. Joël Adia, le président de la République, a, à travers ce discours, peint le tableau sombre de la situation politique, sécuritaire, sociale et économique, tout en rassurant un lendemain meilleur. Il s'est montré déterminé à placer la nation sur la bonne voie, raison de plus de lui faire confiance et de lui apporter le soutien nécessaire. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Dans son traditionnel discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État a évoqué officiellement pour la première fois l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais, déclenchée avec son accord. Dès le début de son intervention, le président a affirmé sa détermination à ne ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays en proie à la violence armée depuis plus de 25 ans. Une situation qui l'a conduit, a-t-il expliqué, a décrété début mai l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Félix Tshisekedi est aussi revenu sur l'économie, la justice, la lutte contre la corruption et les sociales des Congolais. Billy Lutumba pour les détails.
D'entrée de jeu, le président de la République a abordé la question sécuritaire. Sur ce point, le président de la République en appelle à l'engagement des Congolais de tous bords pour une union et un soutien tout azimut afin que les méfaits des groupes armés cessent. Il a ainsi fustigé la campagne de dénigrement de certains Congolais en dépit du fait que les forces loyalistes font bouger les lignes sur les théâtres des combats. Dans le cadre de l'administration d'une justice équitable, le Conseil supérieur de la magistrature est vivement appelé à sanctionner tous les magistrats véreux. Plan politique, pour le président Félix Tshisekedi, les élections de 2023 doivent se tenir dans un climat apaisé et dans le délai. Ainsi invite-t-il ceux qui doivent désigner les membres restants de faire interpel de ce fait les parlementaires à penser à des innovations réglementaires et légales pour favoriser l'émergence des provinces. Quand il aborde la situation socio-économique du pays, le chef de l'État annonce la mise sur pied d'un outil qui va permettre à temps réel de suivre de près la mise en œuvre des divers mécanismes pour l'amélioration du climat des affaires. Tout en reconnaissant une vie sociale peu reluisante de la population, le président de la République demande au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des projets à impact rapide et visible. Depuis la salle de congrès du Palais du Peuple, Billy Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Merci Billy pour tous ces détails, professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Je rappelle que vous êtes député provincial et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État, dans son traditionnel discours annuel sur l'état de la nation, a évoqué plusieurs questions, notamment sécuritaires, économiques, sociales. De façon générale, comment vous avez jugé ce discours du chef de l'État?
Oui, madame. D'abord, il faut noter que c'est un discours sur l'état de la nation. Il n'est pas question de dire qu'il s'agit de promesses. Hein. C'est l'occasion pour le chef de l'État de dire au peuple qu'il a mandaté à quel niveau se trouve le bateau Congo, parce que ça fait bientôt 3 ans qu'il préside au destiné de cette république-là. Il a ainsi, c'est une tradition, puis cette occasion pour exprimer à la nation et dire où nous en sommes. Et si vous voyez bien dans le discours du président de la République, il a plutôt brossé un bilan. Ce n'est pas une question de dire qu'il faisait des promesses. Il a dit ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait en ce moment précis. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de prémisse dans son discours. Le président est passé directement à l'attaque en abordant la question phare, celle qui conditionne toutes les autres problématiques que nous avons en ce moment précis dans le pays. Et cette question, c'est celle de la sécurité. Pour indiquer à la nation comment il a pris l'engagement de mettre fin à ce fléau un quart de siècle après, parce que ça devenait inhabituel, une façon de vivre avec, comme si c'était normal que nous soyons dans cette situation où nos populations sont chaque jour massacrées, tuées, assassinées, violées dans l'est du pays, au centre et ça et là. Alors, il a annoncé cet engagement ferme et les mesures qu'il a prises pour y mettre définitivement fin, c'est ça, l'état de siège. Il a pris aussi soin de rayer d'un trait de plume tout ce qui a été dit, notamment sur les irrégularités qui seraient contenues dans le fait qu'il a fait participer à cet effort des troupes d'un état voisin, dans ce sens que là, tout le monde en a le cœur net parce que les dispositions constitutionnelles avaient été respectées. Il a donc dûment tenu informé la représentation nationale.
Professeur Tshilumbayi, puisque vous parlez de la sécurité, on va rester sur cet aspect. Le président de la République a promis de veiller à ce que la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais soit limitée dans le temps, mais il y a des Congolais sceptiques qui pensent que cette armée ougandaise pourrait rester aussi longtemps qu'elle veut sur le sol congolais, même après la débâcle des rebelles ADF.
Non, il faut que notre population retienne une chose. Les Ougandais ne sont plus entrés dans notre pays comme autrefois, comme dans un panier où ils pouvaient entrer par où ils veulent et sortir par où ils veulent. Ils ont été invités par un gouvernement responsable d'un État souverain qui leur a prescrit le cadre de cette intervention et qui a placé en leur tête un responsable militaire congolais qui doit coordonner les opérations. Une façon de vous dire que ça s'arrête le jour que le chef de l'État ou l'État congolais décidera que ça s'arrête.
Est-ce que ça signifie, professeur, que, comme vous dites, ça s'arrête le jour où le gouvernement congolais va décider, même si on n'arrive pas à éradiquer les ADF, si le gouvernement congolais décide à ce que ça prenne fin, tout s'arrête?
D'abord, notons qu'il n'y a aucune intention dans le chef du chef de l'État et de nos forces armées que cette situation perdure. Vous n'avez qu'à voir les efforts qui sont conjugués et les moyens qui sont en même temps déployés. C'est depuis plus de 24 ans qu'on n'a pas une seule fois déployé les moyens de la même façon, avec le même engagement, la même sincérité et surtout la volonté d'en finir. Donc, il n'est pas question de penser qu'il soit là une question de routine qui va perdurer, qui va nous garder dans cette ambiance éternellement. C'est une question de jour. Il faut qu'on en finisse avec ces barbares qui terrorisent nos populations dans l'est du pays. Et cela n'implique pas non plus que nous ayons en tête que seuls les Ougandais ont la capacité ou viendraient mettre fin à ce phénomène. C'est tout à fait normal que pour ce pays frontalier, parce que il sert lui aussi de support au mouvement de ces bandits, il était tout à fait nécessaire et normal de l'associer, même si c'est pas pour capitaliser sa puissance du feu, mais bien pour participation à ce que ces gens soient étranglés et qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre pour trouver refuge de l'autre côté de l'Ouganda.
Professeur Tinoumbaï, le chef de l'État, dès le début de son intervention, a affirmé sa détermination à ne ménager aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays en proie à la violence armée depuis plus de 25 ans. Et c'est ce qui l'a conduit d'ailleurs à décréter début mai l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a estimé que cette mesure a, selon lui, fait bouger les lignes des bastions jadis occupés par l'ennemi, ont été repris par l'armée. Mais cependant, on continue à compter les morts dans ces deux provinces de Nord Kivu et de l'Ituri. Il y a des massacres tous les jours des populations. Est-ce qu'on peut dire vraiment que cet état de siège a vraiment aidé à faire bouger les lignes?
Oui, les lignes ont sérieusement bougé, madame. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. L'entrée dans le discours du chef de l'État, c'est comme les Romains le disaient, ex abrupto. Cette entrée dans le discours suffit et témoigne de combien le chef de l'État accorde de l'importance à cette question et que on ne peut pas imaginer que tout cela se fasse aussi facilement qu'on puisse le vouloir. Parce que cette situation est une situation qui a des ramifications bien lointaines, qui sont aussi politiques, militaires, sécuritaires, qu'économiques ou même, je peux dire, socioculturelles, que nous ne pouvons pas autant être lâches de penser que ça allait se résoudre en une journée dès que le chef de l'État a décidé de s'engager. Mais bien, à ce niveau, vous avez vous, mieux que moi peut-être, comme journaliste, cette information claire que de nombreux endroits forts de ces bandits ont été récupérés, que des routes qui n'ont plus été fréquentées depuis plus de 20 ans ont été reprises et que nos populations peuvent commencer à y mener leurs activités. Les autres ont repris leurs champs. Vous avez vu ce directeur de l'école primaire qui avait abandonné cette école depuis 8 ans et qui a repris son activité avec des enfants à l'école. Tout cela implique quand même que quelque chose de très important a été fait et qu'on ne peut pas s'imaginer que ces gens qui voient leur mort définitive venir pouvait se laisser aussi faire que facilement comme on l'imagine. Ils se battent à leur manière, ils tentent de terroriser nos populations pour les décourager, pour décourager nos consciences, nous qui sommes à distance, afin de nous montrer que notre armée ne fait rien. Mais non, notre armée est en train de faire des choses spectaculaire que notre population voit. Nous avons des témoignages.
Vous êtes donc d'avis que le chef de l'État a raison de dire que les lignes ont bougé, professeur Tinoumbaï?
Les lignes ont sérieusement bougé, madame. Les lignes ont sérieusement bougé et que l'espoir est permis. Cette situation va prendre fin parce que pour la première fois depuis qu'elle a commencé, on a un chef qui a une volonté réelle exprimée d'y mettre fin.
André Tamboué Katamboué, député national et cadre du PPRD, comment vous avez jugé le discours du chef de l'État?
Je pense que la majorité des Congolais ont été déçus par la prestation de notre chef de l'État tout à l'heure, parce que nous avons pu observer et écouter un président de la République avec des mots un peu plus partisans, avec des propos beaucoup plus politiques et moins républicains. Nous avons quand même constaté que le président de la République, en dehors de la spécialité technique, on a pu observer au niveau de la logistique et de la retransmission, tout le reste, c'est le contenu du discours est vraiment regrettable et décevant. Plusieurs ratés sur tous les plans d'ailleurs, parce que vous avez compris, au plan sécurité, qui est celui qui a été présenté avec FA. Le chef de l'État n'a pas voulu dire, mais il a dit pas une ironie de la rhétorique en disant que 6 mois après avoir proclamé l'état de siège, il n'y a pas eu résultat. Voilà, je suis allé m'agenouiller devant un pays voisin qui était venu tuer mes concitoyens il y a 10 ans passés ici. Je suis allé encore chez lui. L'armée ici que je viens d'accuser devant les instances internationales pour dédommager les Congolais, qu'elles viennent encore dans mon pays pour aller m'arrêter 2-3 criminels que je n'arrive pas à maîtriser et que à ce moment-là peut-être on va éviter que vous puissiez nous payer l'argent que vous avez détruit la ville de Kisangani. C'est peut-être ça. Et là c'était nager au plan.
Ça c'est votre interprétation.
Au plan sécurité.
Alors vous avez interprété selon vous le discours du chef, les propos du chef de l'État sur le plan sécuritaire. Mais est-ce qu'il n'a pas raison de dire que les lignes ont beaucoup changé depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri?
Qui pouvait croire que les lignes ont bougé et que à ce moment-là, il y va recourir à une armée étrangère, une armée considérée toujours comme étant ennemie et jalouse de nos richesses? Sinon, c'était un aveu d'impuissance. Il a compris que les lignes n'ont pas bougé et que les saluts et la réussite de son mandat ne peut se faire que grâce à l'aide étrangère. Il a recouru à des armées qui sont jalouses de nos richesses et qui sont venues moyennant maintenant des contrats encore occultes jusqu'à ces jours. On va les savoir. Je crois que les nationalistes vont s'imprégner là-dessus.
Mutualiser les forces. Mutualiser les forces. Vous estimez que c'est un aveu d'échec puisque les deux pays combattent tous le même ennemi.
Oui, mais vous savez très bien que nous sommes et l'Ouganda et la République démocratique du Congo faisant partie des Nations Unies. Il y a une force internationale qui est ici avec la MONUSCO. Donc nous avons là des mécanismes par lesquels le monde est venu en aide à notre République. Donc nous ne pouvons plus, de manière bilatérale, obtenir encore des troupes étrangères dans notre pays, quitte à nous alourdir la charge dans nos devoirs à l'égard de nos voisins, surtout qu'il s'agit de voisins qui nous ont toujours convoités. On comprendrait si on est allé prendre les Maliens sans frontières avec nous, mais comprennent des gens qui nous convoitent et qui aiment venir en Ituri pour exploiter ceci, cela, qui aiment venir au Nord Kivu, à Beni, pour exploiter ceci, cela, et que ce sont eux que nous trouvons comme partenaires pour aller laisser notre dévolu. Il y a un problème, il y a un problème d'éthique, il y a un problème de rationalité, il y a même un véritable problème de l'amour de la patrie. Donc je pense que le chef de l'État a peut-être là dit indirectement à l'ensemble de la communauté congolaise que non, quelque part, je m'étais trompé, l'état de siège était précipité, là, je n'arrive pas du tout à faire, espérons que les Ougandais, moyennant ce que je leur ai promis, que je ne vous dis pas encore, ils vont réussir. Mais là encore, les Congolais doivent rester vigilants.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans le domaine des violences politiques et des groupes armés, votre analyse sur les propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la mutualisation des forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise.
Merci beaucoup, maman Kélikonté. Merci, Radio Okapi. Je note deux choses. D'abord, les forces du discours. Les forces sont telles que c'est un très, très bon discours qui contient beaucoup de données intéressantes qui peuvent faire l'objet de l'analyse des contenus. Il y avait des mots très forts que j'ai beaucoup aimés, teintés du patriotisme. Je reprends, il n'existera jamais le Congo, soit le Congo de leurs rêves. C'est très fort quand même. Et j'ai noté aussi que le président de la République a identifié les obstacles à l'aventure de l'Est, la traque de groupes armés. Il reconnaît que les massacres sont répétitifs. Il reconnaît que les stratégies utilisées sont limitées. Il reconnaît qu'une minorité de compatriotes joue le rôle d'étouffoir, ainsi de suite. Parce que lorsqu'on est engagé à exécuter une politique publique, il faut identifier les obstacles. Voici les forces. Mais quelles sont les faiblesses ici? Moi, je crois que la limitation dans les temps de l'intervention militaire conjointe de l'Ouganda et de la RDC, à mon avis, me paraît difficile. Cette limitation. Pourquoi? Parce que les motivations, et pour la RDC, et pour l'Ouganda, ne sont pas les mêmes, madame. Permettez que je vous dise que la motivation principale de l'intervention ougandaise en RDC s'avère être la traque des ADF, auteur des attentats à la bombe à Kampala. Rappelez encore que le gouvernement ougandais avait identifié les ADF comme auteurs de cet attentat. Malgré la revendication par cet attentat de l'État islamique, ils considèrent les ADF comme la province africaine de l'État islamique. Vous voyez, ce que c'est dit là-bas, c'est quand même très fort. Mais aussi, et madame, permettez que je vous dise quelque chose, peut-être que ce sera très fort, que l'Ouganda, à mon avis, après avoir étudié suffisamment et de manière détaillée l'histoire, les temps forts, tout ce que nous avons connu, j'ai qualifié l'Ouganda un monstre à plusieurs têtes qu'on a invité en RDC avec beaucoup de risques, beaucoup d'avantages. La question que je me pose et que je pose à l'opinion est celle de savoir qu'est-ce que signifie bouger les lignes. Et ces lignes qui ont été bougées l'ont été activement, quels sont les résultats? L'ont été négativement, quels sont aussi les résultats? Moi, je pense que lorsqu'on analyse une politique publique,
le fait que des bastions jadis occupés par l'ennemi soient récupérés par l'armée, c'est en fait en quelque sorte bouger les lignes, professeur Casimir Ngoubi.
Moi, je considère qu'on peut bouger les lignes à l'actif et au passif. Les lignes se font bouger de l'autre côté aussi, de FRDC ou de la coalition FRDC ou MONUSCO. Donc, les lignes sont bougées, oui, mais les lignes repartent de là où elles étaient pour prendre davantage ou même dépasser les points de départ par rapport à tout ce que nous déplorons aujourd'hui comme un massacre et ainsi de suite, et par rapport à ce que nous appelons aussi insécurité croissante du point de vue de mouvement des populations, comme je l'avais dit l'autre fois là, Mahagi, Bunia, Kisangani, Butembo, Beni.
Zangani, cet espace n'est pas totalement et la République démocratique du Congo jusque-là n'a pas encore bénéficié du monopole du régime de défense. Quand on fait un bilan, madame, on définit les objectifs du départ, on décrit la situation sur le terrain et puis on dégage les écarts. Moi, je pense un discours intelligent, scientifique, un discours qui convainc, doit tenir compte de tous ces aspects-là.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, parlant politique, le président de la République a réaffirmé sa détermination à organiser les élections dans le délai constitutionnel en 2023. Alors, pour ce faire, il appelle les Congolais à soutenir la CENI et demande au regroupement politique de parachever le processus de désignation des membres qui doivent composer le bureau de la CENI. Vous êtes optimiste que ces élections de 2023 seront tenues dans les délais constitutionnels?
D'abord, un petit pas en arrière, madame. Lorsque l'honorable Tambwe parle des Ougandais comme des ennemis qui convoitent nos richesses, c'est d'être de l'honorable Tambwe qui leur a dit qu'il y avait des richesses à prendre gratuitement au Congo, et à leur époque, tout cela était gratuit, ils pouvaient entrer quand ils veulent, on ne savait même pas quand est-ce qu'ils entrent, quand est-ce qu'ils sortent. De deux, qui a dit à l'honorable Tambwe, et c'est écrit où, que lorsqu'il y a une mission des Nations Unies dans un pays, ce pays-là devient esclave de cette mission et qu'il n'a plus son autonomie, son autorité, sa souveraineté pour souscrire des engagements bilatéraux. S'il faut rentrer à la question électorale, pourquoi moi je ne peux pas être optimiste? Parce que là, vous avez un chef, lui au moins, qui est en cours de son mandat, presque à moitié à mi-mandat, et qui pense à l'élection pour que les institutions soient toujours légitimes, à la différence d'autrefois où les gens pouvaient même nous amener dans des situations où on ne savait pas à quand se tiendraient ces élections. Pourquoi ne serais-je pas optimiste lorsque vous avez un chef qui vous montre qu'il ne veut pas passer un seul jour d'illégalité, d'illégitimité, d'irrégularité au pouvoir? Il veut que les Congolais renouvellent leur confiance en leurs dirigeants dans les timings précisés par la Constitution.
2022, c'est déjà demain. 2023, ce n'est pas très loin. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, est-ce que les moyens sont là pour organiser les élections?
Les moyens sont là. Les élections se tiendront le 30 décembre 2023, soit 5 ans jour pour jour après les autres élections que nous avons connues dans ce pays. Cela implique en outre qu'il faut que tout le monde assure ou assume sa partition, y compris le PPRD qui n'a pas encore désigné ses représentants, qui se cachent frauduleusement derrière cette histoire de consensus interne qu'il crée et qu'il interprète à sa manière. Nous attendons, nous voulons que, pour être sûr que ces élections, les premières que nous organiserons, seront les meilleures et les plus transparentes dans ce pays. Nous voulons même que l'honorable Chadari aille à la CENI lui-même pour assurer une surveillance sous azimut afin qu'il n'y ait aucune contestation. Nous n'en voulons pas et nous n'en voudrons plus. C'est ça l'effort. Et le chef de l'État, il l'a dit en des termes beaucoup plus clairs, c'est qu'aucun de ses prédécesseurs n'a dit, alors qu'il était encore en poste dans ce pays, pour la première fois, on a ce chef qui a hâte d'aller à ces élections et qui exige, alors que lui est en fonction, qu'elle soit transparente.
Merci.
Il invite ainsi tout le monde à venir participer à la surveillance et au fonctionnement de ce processus qui doit être le plus fiable possible.
André Tambwe, le chef de l'État, a lancé un appel à ceux qui traînent encore les pas à désigner leurs délégués dans le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il faisait sûrement allusion à vous du FCC qui n'avait pas encore envoyé vos délégués. Il tient à ce que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel en 2023.
Je pense que le professeur a été un peu mal aisé de parler de la question du processus électoral. Vous comprenez avec peine, il devrait se débrouiller. Mais tous les Congolais ont vu dans le chef de l'État cet après-midi ou cet avant-midi la posture d'une personne insatisfaite de la série de forcing qui a été entamée au niveau institutionnel et qui lui rassure un certain résultat à l'issue du processus électoral que l'on voit déjà biaisé, amputé au départ. Comment pouvait-il appeler aux gens de soutenir une CENI alors que la CENI est déjà indépendante, lui qui s'est déjà déclaré candidat à sa succession? Vous le savez très bien. Est-ce qu'il voulait seulement d'une CENI dont la liste des membres est transmise par Dodo Kamba et jamais par l'église catholique ou protestante, parce qu'à l'époque Rosa Malonda a été désigné, envoyé par quelqu'un d'autre,
mais il avait
refusé. Aujourd'hui, madame, il faut nous donner les mêmes chances d'intervention, s'il vous plaît.
Oui, on a un chrono, ne vous en faites pas. Le chef de l'État vous demande d'envoyer envoyer vos délégués à la CENI.
Comment on va aller dans un processus où on sait qu'on a forcé les gens qui vont proclamer les résultats définitifs, c'est-à-dire les juges de la Cour constitutionnelle. On a forcé les gens qui doivent aller à la CENI, c'est-à-dire les gens qui devraient être envoyés uniquement par Dodo Kamba. Si ce n'est pas Dodo Kamba, toute autre personne est disqualifiée. Comment on peut aller dans un processus où vous parlez du FCC? Mais il y a déjà un vice-président à la CENI qu'on appelle issu de la composante FCC. Il y aura combien de FCC? C'est-à-dire le président Félix est content d'avoir dédoublé les formations politiques et les composantes politiques à ses fins. Il n'est pas normal que le Congolais aujourd'hui croie à cet appel au soutien à la CENI. La CENI d'aujourd'hui n'est pas fiable, n'est pas crédible et n'est pas responsable. Donc il n'y a pas de raison
aujourd'hui. Vous n'êtes donc pas prêt à envoyer vos délégués?
Non, on ne peut pas envoyer des délégués pour se faire noyer. Nous ne voulons pas, pour ceux qui ont été longtemps dans l'opposition, ceux qui disaient que si une fois nous sommes au pouvoir, nous allons changer les choses. Aujourd'hui, il ne change rien. Voilà pourquoi il a évité de parler des RAM, qui est une escroquerie de l'État. Il a évité de parler des Piodi, qui devrait avoir un carton à 10 dollars. Il a évité tout ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur les questions sociales, il a échoué. Il ne fait qu'échouer. Il vient de mettre une machine à son service et il veut que nous puissions être une caution à une mascarade électorale. Ce n'est pas normal.
Professeur Casimir Ngoubi, votre point de vue sur l'appel du chef de l'État à ceux qui traînent les pieds à désigner leurs délégués pour aller prester dans le bureau de la Commission électorale nationale.
D'emblée, permettez que j'affirme ceci. La classe politique est une et indivisible aux yeux des églises responsables, aux yeux de professeurs universitaires et les autres membres de la société civile. Pas de fuite en avant. Ils sont tous ensemble et ils auront des comptes à rendre à la RDC, au pays, les années qui viendront. Parce qu'ils ont des affaires. Qu'ils se mettent ensemble ou pas, la classe politique est une et indivisible. La déstabilisation des institutions provinciales, vous vous rendez compte, elle n'est pas l'affaire d'un parti politique, mais de l'ensemble des acteurs politiques qui pilotent notre pays. Et là, vous avez les membres de l'Union sacrée, vous avez aussi les membres du FCC. Ils sont tous ensemble. Et donc, ils sont obligés, n'est-ce pas, de corriger les déficits du consensus dans la gestion du politique, des institutions politiques de notre pays. Le mandat était bien limité dans le temps. Et le délai constitutionnel doit être respecté. Mais quand on dit que le délai constitutionnel va être respecté, alors qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui ne veulent pas se donner ce devoir, qui ne veulent pas mettre de leur énergie pour que les choses aillent de l'avant, je crois qu'aujourd'hui, on va commencer à analyser secteur par secteur. Comme vous avez dit, la CENI, d'après les calendriers tracés, aujourd'hui, qu'est-ce que devait être la CENI? Est-ce qu'on devait être là où nous sommes, où les acteurs politiques sont en train de chamailler, de se disputer les postes? Je ne sais pas. Du point de vue du consensus au niveau de l'Église, où sommes-nous aujourd'hui? Vous avez observé là le retrait de l'Église catholique responsable, le retrait de l'Église protestante responsable. Même si on peut dire beau tout ce que l'on peut dire, mais je vous dis, l'histoire nous jugera. Et nous allons être rattrapés par nous-mêmes.
Et vous pensez qu'en 2023, les élections seront organisées?
Toutes choses étant égales par ailleurs, je ne me permettrai pas de l'affirmer. Parce que lorsqu'on est déjà en retard par rapport à l'organisation de la CENI, lorsqu'on assiste à la déstabilisation de pratiquement toutes les provinces, lorsqu'on ne sait pas observer déjà ces différents calendriers, je me pose la question comment en 2022 on sera capable de racheter tout ce temps et d'aller à l'essentiel. Et surtout que jusqu'à aujourd'hui, tout est bloqué au niveau de l'opposition et du pouvoir. Alors, s'ils achètent par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, ils peuvent accepter de composer pour des questions qui concernent l'intérêt supérieur de la nation. Et là, j'allais oublier, savez-vous qu'aujourd'hui, même si le gouvernement Samalou Kondé n'arrivait pas à traquer les ADF, les rebelles, les groupes armés, c'est pas lui-même qui va être condamné. C'est l'ensemble de la classe politique. Parce que ce sont ces divisions intestines à l'intérêt de la classe politique qui freinent l'élan, n'est-ce pas, d'un État qui devait être responsable, d'un État qui devait être uni pour traquer les groupes armés. Et donc, moi, j'ai comme l'impression que quelque part, les acteurs politiques oublient ce qui les met ensemble et oublient aussi ce qui les divise. Et donc, lorsque certains acteurs politiques battent du côté de l'opposition, ils changent de discours. Lorsqu'ils viennent au pouvoir, voir ici à Strasbourg et finalement où à Londres.
Alors on va prendre ces auditeurs qui sont très très nombreux à nous appeler sur notre sondage, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Patient Mbumba Mushidi depuis la ville de Kolwezi. De ma part, le président de la République a avoué l'échec de son gouvernement de warriors quant à ce qui concerne le social de la population congolaise. Nous pouvons considérer cela déjà comme un aveu pour son mandat quinquennal à la tête du pays. Le peuple congolais est en train d'attendre du président de la République de soulever les questions cruciales quant à ce qui concerne par exemple la taxe RAM, quant à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement et autres questions. Par exemple, ici au Lualaba, nous attendons le retour du gouverneur de la province, mais jusque-là, il n'est pas rentré. Mais le peuple et le président de la République ne fait que promettre, ne fait que avancer encore des promesses qui ne tiennent toujours pas, qui ne fait que promettre les choses irréalisables.
Professeur Tshilumbayi, le chef de l'État reconnaît la défaillance, selon cet auditeur, de son gouvernement des warriors sur le plan social. C'est un aveu d'échec pour le mandat de Félix Tshisekedi.
Non, le chef n'a pas dit qu'il reconnaît la défaillance. Il a d'abord énuméré toute une série d'activités de grande envergure qui avaient été mises en place et qui sont presque terminées. Il déplore plutôt l'absence d'une certaine coordination pour que ces activités-là soient mises à la disposition de notre peuple pour qu'il en bénéficie et qu'il bénéficie des services relatifs. Il a cité l'eau de l'Embayimbu, il a cité les barrages qui ont été construits et qui sont terminés et qui doivent être mis en mouvement pour que l'électricité soit transportée afin que notre peuple en bénéficie. C'est vrai que le chef de l'État, comme un homme conscient et responsable de la situation du pays, parce qu'il parlait de l'état de la nation, il a si appelé les chats par son nom. Là où les attentes du peuple ne sont pas encore suffisamment rencontrées, il l'a dit clairement que dans tel domaine, nous n'avons pas encore rencontré les attentes du peuple et il a indiqué les voies et moyens qui sont déployés pour y parvenir. Ce n'est pas cela qu'on appelle aveu d'impuissance. Et en ce qui concerne le social lui-même, madame,
c'est question... Il reconnaît quand même que pendant ces 3 ans, ils n'ont pas réussi à relever quand même le niveau social des Congolais.
Oui, mais moi j'ai dit, c'est le social maintenant, il faut que l'on en ait la même compréhension, la même définition.
Les Congolais n'ont toujours pas accès aux services sociaux des bases tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé, le transport. Le président
oui, l'enseignement de base, c'est un service social de base. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse du social un tout qu'on résume dans l'assiette. Et l'assiette même, c'est aussi le fruit des ramifications.
Il n'a même pas évoqué cet aspect de la gratuité ou de l'enseignement des bases dans son discours.
Oui, mais il ne l'a pas cité parce que c'est une réforme déjà mise en place. Toutes les précautions sont en train d'être prises pour qu'elles soient totalement effectives. Donc, il faut dire que...
On attendait aussi le chef de l'État sur la question de la taxe RAM, mais rien du tout sur cette question. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a demandé à ce que cette taxe soit supprimée carrément.
Pourquoi on voudrait, par exemple, que cette question qui est en train d'être discutée en ce moment précis à l'Assemblée nationale qui en a la compétence, que le chef de l'État vienne lui prendre la place de l'Assemblée nationale pour décider à sa place alors que la question est en discussion au sein de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée a déjà fait des recommandations, il faut supprimer la taxe.
Oui, mais la séparation des pouvoirs, c'est ça que ça implique. Et la recommandation est adressée plutôt au gouvernement de la République, pas au chef de l'État. Il va sans dire qu'ici, la séparation des pouvoirs que nous appelons de tous nos voeux a été aussi respectée dans cela. Parce que le chef a bel et bien constaté que nous sommes à cette période où l'Assemblée nationale discute de bien fondé ou de l'impertinence de cette taxe RAM par rapport à ce à quoi elle est destinée. Parce que moi je crois que le problème n'est pas la taxe. Tous les États sérieux fonctionnent avec des taxes en abondance. Le problème se situe plutôt peut-être au niveau de l'allocation de cette taxe et de sa pertinence. Il est en discussion à l'Assemblée nationale. Il n'appartenait pas au chef de l'État de venir prendre les décisions qui sont de cette compétence précise. Là, j'estime que notre population aussi devrait d'apprendre à faire la part des choses pour éviter que l'on vienne dire qu'il s'agit d'un despote, d'un totalitaire qui est en train de faire tout à la place d'autres institutions. Et le chef de l'État, dans son discours, il a su bien respecter. Mais du reste, vous avez vu que le social de cette population reste son cheval de bataille et que les orientations qu'il a données en ce moment sont des orientations très précises et qui vont donner des solutions escomptées dans les jours qui viennent.
André Tamboué, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Albert Kolembela Mokomba, depuis Kisangani dans la province de la Tiopo. J'apprécie le discours présenté par les chefs de l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Objectivement, sur le plan théorique, c'est un bon discours, plein de bonnes intentions, ce qui prouve que le chef de l'État a la volonté de changer les choses. Sur le plan pratique, ce discours est loin de la réalité sociale. Heureusement, le président de la République lui-même a reconnu cet aspect. Sur le plan économique, le chef de l'État devrait utiliser les chiffres pour montrer à la population là où nous venons. À mon avis, le chef de l'État a la lourde tâche de concrétiser ce qu'il a dit devant les deux chambres réunies en congrès.
André Tamboué, brève réaction.
C'est la lecture de notre compatriote et je suis pratiquement d'avis avec lui lorsqu'il considère le discours d'aujourd'hui comme étant un discours raté dans son ensemble sur le fond. Parce que sur la forme, bien qu'il reste effectivement quelques raccourcis à dire, mais en tout cas sur la forme, on peut laisser dire que c'est un bon discours, mais sur le fond, le président Félix Tshisekedi a avoué qu'il a échoué. Le président Félix Tshisekedi a échoué et son gouvernement devrait démissionner. Parce que quand vous lisez l'article 93 de notre constitution, le gouvernement fonctionne et travaille sur la coordination du premier ministre. Quand le président de la République décrit un déficit de pilotage des actions du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre devrait d'être soit déposer sa démission. Je ne comprends pas pourquoi dans ces pays, les gens qu'on a appelés warriors, on est capable de leur dire, vous avez échoué, partez déjà. Mais le chef de l'État devrait aussi reconnaître une chose, c'est qu'en disant que le FMI nous a amené de l'argent pour augmenter nos réserves en devises dans notre banque, il a démontré en suffisant l'impuissance de ce gouvernement qui nous a menti en disant qu'il a amené une amélioration dans la gestion des finances publiques qui a fait l'augmentation de nos réserves stratégiques. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous a donné une vérité révélée.
Il a dit dans son discours que l'année 2021 aura été marquée par une mobilisation accrue des recettes.
Non, mais il a déjà dit que les FMI qui a financé à hauteur de 700 millions de dollars, c'est ce qui a permis l'augmentation de nos réserves en devises. Autrement dit, ce qu'on a entendu dire que c'est le gouvernement, par sa capacité managériale, qui a réussi cette augmentation, c'était un mensonge et que là encore une fois, il a capté son gouvernement à répondre aux menaces et rappeler que le gouvernement était incapable de répondre aux besoins sociaux de base. Il a évité de parler de questions ramées. L'honorable Paul Tshilumba a dit qu'il ne devait pas en parler parce que c'est parlé au niveau de l'Assemblée nationale.
Jean-Claude Tshilumba,
le chef de l'État, a parlé de ses instructions à la justice. Il a parlé de ses instructions aux magistrats de la Cour constitutionnelle. Vous vous rendez compte? Les gens qui devaient les juger, lui, les donnent des instructions. Autrement dit, il n'y a pas séparation de pouvoir. Comment pour parler de la question RAM, il peut respecter la séparation de pouvoir? Parce qu'il est sûr même l'Assemblée nationale a fait tel ou tel travail. Il en a dit, notamment ce qui concerne les lois qui restent pour les processus électorales. Qu'est-ce qui l'a empêché de parfaire la question de RAM qui fait pleurer toute la nation congolaise? Et la question des pioches qui devraient être achetées à 5 dollars ici les cartons. Ils n'en parlent même pas. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte qu'il a beaucoup promis, il a menti, il a échoué lamentablement. Le président Félix nous a amené un discours aujourd'hui très politique, très partisan, moins républicain, moins démocratique et socialement très décevant.
Professeur, on va prendre aussi très rapidement pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron depuis Kalemi, chef lieu de la province du Tanganyika. Le discours du président de la République a été mitigé par rapport au vécu quotidien du peuple congolais. Je crains que ces promesses ne constituent des simples surenchères, car plusieurs promesses sont restées en jachère, dont la concrétisation fait encore défaut. Ce qui est drôle est que le président de la République est resté indifférent, voire tacite, au sujet de la taxe RAM, une taxe injuste et illégale. Pourtant, le peuple, les députés et le sénateur crient haut et fort pour sa suppression pure et simple. Cette passivité du chef de l'État face à cette situation des RAM entrave la Constitution, dit que le président de la République est le garant de la nation.
Professeur, encore cette question sur la taxe RAM. Qu'est-ce que vous pensez du discours du chef de l'État sur le plan social?
J'ai comme l'impression que l'auditeur a raison et que je crois qu'il faut prendre en compte toutes ces questions sociales pour y trouver des réponses adéquates. Je crois que toute cette taxe RAM gêne. Mais moi-même, j'en suis aussi victime. Si l'on pouvait aussi aborder ces questions, je crois que le président de la République serait mieux. Et aussi, l'auditeur a raison quand il parle du discours qui aura été dirigé, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai donné les forces comme les faiblesses du discours du président de la République.
Le fait pour le président de reconnaître que beaucoup de Congolais peinent toujours à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux besoins sociaux des bases tels que l'eau, l'électricité, les soins médicaux, est-ce un aveu d'échec, professeur? Ça sera aussi votre conclusion?
Non, je ne pense pas que ça soit un aveu d'échec. C'est un constat qu'il fait par rapport à d'innombrables obstacles qu'il rencontre. Et que je crois que lui-même pourrait peut-être s'évaluer peut-être négativement, mais c'est un constat qu'il fait qui est normal par rapport à ce qu'il devait faire. Si vous voulez que je passe directement à la conclusion, je crois que je suis conscient que la MONUSCO aujourd'hui joue un rôle très délicat par rapport à l'intervention militaire conjointe. Une lecture géopolitique révèle que l'Ouganda est intervenu en RDC parce qu'il fait l'objet de menaces des ADF. Aussi, le rapprochement de l'Ouganda à l'Égypte du point de vue des renseignements militaires, inquiète son ancien allié l'Éthiopie. Or, l'on sait bien qu'un retournement des alliances peut justifier ces menaces. Que la RDC soit prudente quant à la présence de l'Ouganda sur son sol.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. Jean-Claude Chilumbaï, professeur Jean-Claude Chilumbaï, 30 secondes pour votre conclusion.
Oui, madame, je crois que tout a été plus ou moins clairement dit. Lorsque l'honorable Tambwe parle de l'échec, il n'inscrit pas l'échec là dans la dynamique de changement que lui attendait. Heureusement qu'il reconnaît que tout ce qu'ils ont fait était du foutu et qu'ils attendaient ce changement du président de la République. Mais il n'a pas tenu compte de tous ces points positifs qui ont été énumérés, les routes construites et autres choses en train d'être faites. La gratuité de l'enseignement, qui bien sûr est à pas faire, a donné du sourire à de nombreuses familles et des millions d'enfants qui sont rentrés à l'école. Tout ce qui est nécessaire à ce niveau, c'est de dire que notre paix va avec ces conditions telles que nous sommes engagés dans cette bataille contre ces bandits dans l'est du pays. Elle va aussi de pair avec la stabilité institutionnelle qui est conditionnée par l'organisation séquentielle et régulière des élections. C'est à quoi le chef de l'État s'attache de manière imperturbable. On attend donc que le FCC de l'honorable Tambwe, la branche FCC de l'honorable Tambwe, envoie ses délégués à la CENI, parce que lorsqu'il parle du dédoublement, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il en entend parler, parce que nous l'avons déjà vécu dans ce pays. On a vu autant d'UDPS, on a vu autant de ACO et ainsi de suite. Et ça ne doit pas l'étonner lui. Ce qui est important à ce moment, c'est d'envoyer leurs délégués pour qu'ils suivent le processus électoral.
Merci, professeur Jean-Claude Chilumbaï. André Tambwe, vous avez aussi 30 secondes pour conclure.
J'ai conclu en disant que le discours de ce soir de notre chef de l'État a déçu toute la population congolaise parce qu'il n'a donné aucun chiffre promettant, ni sur le nombre d'emplois créés, ni sur le nombre d'emplois à créer, ni sur le nombre d'investisseurs attirés, ni sur le nombre d'investisseurs à venir. Il n'a rien dit sur ce que le peuple de Congo devait s'attendre à l'année prochaine. Comme il a dit l'année passée qu'il y aura des avions neufs qu'on n'a pas vu également cette année. Il n'a rien dit également sur le sort de l'argent qu'on a volé aux Congolais par l'opération RAM. Il n'a rien dit, c'est-à-dire il a oublié les vrais problèmes du Congolais aujourd'hui. Et quand on dit que ce qui a été fait avant était tout gâché, je vous rappelle que chez moi à Katakokombe, les routes étaient plus praticables à l'époque de Kabila qu'aujourd'hui sous Félix Tshisekedi, parce que tout était à l'état de délabrement alors qu'il s'agissait des routes de cantonnage manuel.
Merci.
Donc ce que nous pouvons reconnaître, c'est que le chef de l'État n'a pas aidé les Congolais à l'aimer comme davantage, et de plus en plus il compromet son mandat, il va échouer aux élections qu'il veut organiser.
Merci
de la manière qu'il veut.
Merci André Tambwe Katambwe, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui a réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.